VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 18h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Gambie, une délégation de la CEDEAO conduite par la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, présidente en exercice de l'organisation régionale, est à Banjul pour tenter de convaincre Yahya Jammeh de se retirer du pouvoir après être revenu sur sa décision de reconnaître sa défaite au présidentiel. Le point avec Abdourahman Dia.
À leur descente d'avion, la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf a déclaré aux journalistes qu'elle espérait que la volonté du peuple prévaudrait. Les chefs d'État nigérians, ghanéens et sierra-léonais font aussi partie de la délégation. Yahya Jammeh a reçu ses homologues en début d'après-midi. Le chef d'État-major, le général Ousmane Badji, dont Adama Barrow avait affirmé avoir reçu son appui en tant que président élu, est arrivé aux discussions. Il a dit à un journaliste à Banjul qu'il recevait les ordres du président Yahya Jammeh car c'est lui qui paie son salaire. La délégation a aussi rencontré à huis clos Adama Barrow. La CEDEAO dit privilégier la voie diplomatique, mais le président de la commission, le béninois Marcel D'Assouza, a indiqué que l'organisation régionale n'excluait pas d'autres options. L'armée a pris ce matin le contrôle du bâtiment de la commission électorale et empêché les employés d'y entrer. Son président Alioune Omar Ndiaye maintient toujours que c'est Adama Barrow qui a remporté le scrutin du 1er décembre dernier.
Mali, plus de 260 Maliens expulsés d'Algérie sont arrivés à Bamako. Beaucoup d'entre eux ont accusé les forces de sécurité algériennes de les avoir violemment maltraités, faisant des blessés, voire même des morts. Plus de détails avec Nani Talani.
Selon Ousmane Koulibaly, les migrants ont été battus à coups de matraque ou avec une barre de fer et certains d'entre eux ont eu la tête fracassée contre un mur. Ils déplorent au moins 3 morts, accusant les forces de l'ordre algériennes d'être racistes depuis les locaux de la protection civile où il est accueilli. Certains expulsés dénoncent le manque d'eau et de nourriture, le fait d'avoir été dépouillés de leur argent ou de leur téléphone portable avant d'être déportés comme du bétail dans des camions. D'autres affirment avoir été expulsés même si leurs papiers de séjour étaient en règle. Aucune source officielle malienne n'a confirmé ces informations sur les décès et les autorités algériennes n'ont fourni aucun commentaire sur cette vaste opération lancée au début du mois.
Crise au Burundi. L'opposition burundaise en exil refuse de rencontrer l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, facilitateur dans la crise burundaise, en l'accusant d'avoir pris fait et cause pour le gouvernement de Bujumbura. C'est ce qu'a assuré à l'AFP Jean Minani, président du Sénaret, d'une plateforme qui regroupe la quasi-totalité de l'opposition burundaise intérieure et en exil. Nous avons rencontré lundi à Bruxelles 2 envoyés du facilitateur Benjamin Mkapa qui était venu nous dire qu'il nous invitait à Arusha en Tanzanie pour nous expliquer ce qu'il projette de faire, a déclaré M. Minani. Nous leur avons remis une lettre à donner en main propre à Mkapa pour lui signifier que nous le récusons officiellement en tant que facilitateur. Il s'est démis de ses fonctions en prenant fait et cause pour le gouvernement burundais lors de son séjour à Bujumbura, a précisé le leader du Sénared. Au terme d'une visite de 3 jours à Bujumbura, M. Mkapa avait jugé vendredi dernier inutile de continuer à contester la légitimité de l'élection en 2015 du président burundais Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat. Et il avait appelé les partis burundais à se concentrer sur la bonne tenue des élections de 2020. RDC, alors que reprend aujourd'hui le second dialogue national à l'initiative de l'Église catholique, la CCT, la Coalition des Congolais pour la Transition, appelle à une transition sans le président Joseph Kabila. On écoute Maggy Mouswamba Kanyida, membre de la CCT.
La campagne Kabila, trop c'est trop. Donc nous, le peuple congolais, on en a marre. On a marre de Kabila. Il a géré pendant autant d'années, mais rien du tout. Alors c'est ainsi qu'on a décidé, donc nous, la CCT, tournons la page Kabila, trop c'est trop. Il a géré. Quel est le résultat? Rien du tout. Le premier désaventure, premier dialogue, deuxième dialogue. On est vraiment fatigués. Il doit partir avec son régime et nous laisser tranquille. Nous allons lutter jusqu'à la fin. En tout cas, on a besoin de la transition, mais sans Kabila. Au cas où il partait, il y aura des gens nègres qui n'ont pas participé à leur bêtise là, qui n'a pas été au gouvernement, qui n'a pas géré ce pays ici, ni à la société. Et il y aura toujours quelqu'un qui va diriger la transition, demandant Kabila doit partir.
Magui Moussouamba Kanyida, membre de la CCT en RDC.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Cour pénale internationale, le gouvernement kényan va réfléchir sérieusement à un éventuel retrait du Kenya de la CPI, la Cour pénale internationale. C'est ce qu'a affirmé lundi le président kényan, Uhuru Kenyatta. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Dans un discours à l'occasion de la fête nationale hier, le président Uhuru Kenyatta n'a pas mâché ses mots. Selon lui, la Cour pénale internationale, qui a démontré un manque flagrant d'impartialité, est devenue un instrument de la politique du pouvoir dans le monde et non de la justice pour laquelle elle a été créée. « Nous allons dès lors devoir réfléchir sérieusement à notre adhésion », a-t-il ajouté. Monsieur Kenyatta et son vice-président William Ruto avaient été inculpés par la CPI pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007-2008. Par la suite, les poursuites ont été abandonnées. Depuis son entrée en fonction, la CPI a ouvert 10 enquêtes, dont 9 dans des pays africains. Le Burundi a été le premier pays à claquer la porte en octobre. L'Afrique du Sud lui a emboîté le pas, puis la Gambie, faisant craindre une cascade de retraits des pays africains.
Politique aux États-Unis maintenant. Le président élu Donald Trump a nommé ce mardi à la tête de la diplomatie américaine Rex Tillerson, le PDG du géant pétrolier ExxonMobil et ami du président russe Vladimir Poutine. Barasikoura, c'est un signal fort du président élu qui souhaite un réchauffement des relations entre Washington et Moscou.
La réaction de Moscou ne s'est pas fait attendre. Le Kremlin a salué en Rex Tillerson, un professionnel qui a de bonnes relations de travail avec le président russe Vladimir Poutine. Monsieur Tillerson, 64 ans, connaît très bien la Russie où, en sa qualité de patron du premier groupe pétrolier mondial, il a souvent fait des affaires. Mais il a aussi développé une relation personnelle avec le président russe Vladimir Poutine. Les relations avec Moscou sont au plus bas depuis l'annexion de la Crimée et alors que la situation en Syrie, en particulier à Alep, est chaque jour un peu plus dramatique. Selon plusieurs médias, Donald Trump a aussi nommé l'ancien gouverneur du Texas, Rick Perry, comme son secrétaire à l'énergie.
Suite de la série de VO Afrique sur Flint, cette ville de l'État du Michigan aux États-Unis où les habitants ont bu de l'eau contenant du plomb pendant 18 mois. Aujourd'hui, nous reparlons de ce scandale sous un autre angle. Il y a un an, la maire de Flint déclarait l'état d'urgence et depuis plus de 200, des milliers de personnes ont entamé des procédures du judiciaire. Nastassia Peteuil s'est rendue sur place pour faire l'état des lieux. Elle a rencontré des personnes qui se battent nuit et jour pour obtenir gain de cause.
Depuis plus de 2 ans, Melissa Mays milite pour obtenir justice après avoir été empoisonnée par l'eau de Flint. Cette mère de 2 enfants fait partie d'une action collective pour demander des réparations. Ils sont 10 000 dans ce cas.
Nous visons l'État du Michigan, car ce sont eux les responsables. D'ailleurs, des employés ont été inculpés, ce qui prouve ce que l'on dit. On espère pouvoir faire changer les matériaux électroménagers détruits par l'eau, leur donner de nouvelles canalisations, de l'argent pour continuer à vivre et à s'en remettre. Personne ne va s'enrichir.
Les habitants sont en colère et souhaitent poursuivre en justice l'État du Michigan et le comté. Pendant plusieurs mois, l'administration a caché à la population que l'eau n'était pas potable. Rachel Young, avocate, défend les habitants depuis le début. Elle a tenté de poursuivre en justice l'État pour près de 6 500 personnes. Mais l'État a répondu qu'il n'était pas condamnable.
L'État nous a dit, oui, on a mis la pagaille, nous nous sommes trompés, mais nous sommes le gouvernement, nous étions de bonne foi et vous ne pouvez pas nous poursuivre en justice.
Les habitants vivent donc quotidiennement avec un sentiment d'injustice. L'État est intervenu au début de la crise, mais n'est plus présent depuis plusieurs mois sur le terrain. Après avoir été empoisonné pendant 18 mois, les familles cherchent des compensations financières.
Les habitants ont un sentiment d'injustice, car le gouvernement déclare qu'il n'est pas responsable pour les dégâts ou du fait que les enfants ont été empoisonnés ou que les habitants ont des rougeurs ou des pertes de cheveux et autres. Ils disent ne pas être responsables de leurs mensonges ou d'avoir déclaré que l'eau était potable alors que l'on envoyait des bouteilles d'eau aux fonctionnaires.
Plusieurs procès collectifs sont en cours. Pour l'instant, aucun recours n'a abouti. Les résidents de Flint doivent payer pour avoir ingéré de l'eau contaminée avec leurs propres deniers. Les conséquences sanitaires sont graves. Les enfants de moins de 3 ans et les nourrissons auront des conséquences à vie. Un drame pour les familles.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.